Androl aurait juré qu'il ne savait plus ce que c'était, respirer de l'air frais. Autour de lui, la terre tremblait et fumait, et le vent charriait l'odeur des cadavres carbonisés. À la recherche de Taïm, ses compagnons et lui étaient montés au sommet du plateau par le versant ouest, là où le gros des forces chariennes affrontait l'armée de la Tour Blanche. Tandis que les Aes Sedai et les Ayad se bombardaient de tissages mortels, Androl errait dans le paysage dévasté. Plié en deux pour ne pas faire une cible trop facile, il enjamba plusieurs monticules de terre, en essayant de se faire passer pour un blessé qui tentait de trouver un refuge sûr. Il arborait toujours le visage de Nensen, mais comme il baissait la tête, ça n'avait aucune importance. Il capta de l'inquiétude chez Pevara, qui marchait seul un peu plus loin.
« Que se passe-t-il? Tu vas bien ?»
La réponse vint après un moment d'angoisse.
« Oui, une petite frayeur avec des chariens. Mais j'ai pu les convaincre que j'étais de leur côté. »
« C'est un miracle qu'on distingue parfois les amis des ennemis, » répondit Androl.
Avec un peu de chance, Emarine et Jonette s'en seraient sortis aussi. Ils étaient partis ensemble, mais si... Androl se pétrifia. Devant lui, à travers la fumée, il venait de voir un cercle de trollocs qui protégeait quelque chose. Plissant les yeux, il remarqua qu'ils étaient perchés sur une saillie rocheuse qui jaillissait du versant comme l'assise d'un siège. Il avança, espérant voir plus de détails.
« Androl !»
La voix de Pevara le fit sursauter.
« Quoi ?»«
Quelque chose t'a inquiété. J'ai réagi à ce que je sentais. »
Androl inspira plusieurs fois pour se calmer.
« J'ai trouvé un moment. »
Quand il fut assez près, Androl sentit qu'on canalisait à l'intérieur du cercle de monstres. Il ignorait si, une voix de femme criant un ordre, les trollocs s'écartèrent. Mishraïl plissa les yeux, puis lâcha.
« Ce n'est que Nensen. »
Le cœur d'Androl faillit exploser. Un homme en veste noire se détourna de sa contemplation du champ de bataille. Taïm, avec entre les mains un disque blanc et noir peu épais. En suivant les combats, il passait un pouce sur l'objet, un sourire méprisant aux lèvres. Le connaissant, il devait juger minables les hommes et les femmes qui s'entretuaient avec le pouvoir.
« Alors ?»
lança-t-il à Androl, tout en glissant le disque dans sa bourse.
« J'ai vu Androl !»
dit Androl, suivant son instinct. Taïm s'attendait à ce qu'il approche. Il le fit, passant devant les trollocs pour se jeter dans la gueule du loup. S'il pouvait avancer assez...
« Je l'ai suivi un moment. »
Nansen avait une voix basse et rauque, finalement assez facile à imiter. Pevara aurait pu inclure le timbre dans le déguisement, mais elle ne connaissait pas assez bien le modèle.
« Je me fiche de ce crétin, idiot. Que fait Demandred ?»«
Il m'a vu, et il n'a pas aimé que je traîne dans ses pattes. D'ailleurs, j'ai un message pour toi. Le prochain d'entre nous qu'il verra loin de sa position, il le tuera sans pitié. »
« Androl !»
émit Pevara, morte d'inquiétude. La chamane n'était pas en mesure de répondre, trop concentrée sur l'exploit de ne pas trembler de tous ses membres en approchant de Taïm. Celui-ci ferma les yeux et se prit le menton entre le pouce et l'index.
« Moi qui pensais que tu pouvais faire un truc si simple. »
Un tissage complexe d'esprit et de feu percuta Androl telle une vipère qui se dresse pour planter ses crochets dans une proie. Commençant par ses pieds puis remontant le long de ses jambes, la douleur tétanisa Androl. Avec un cri, il tomba sur le sol.
« Tu aimes ça ?»
demanda Taïm.
« Une leçon de Moridin. Je pense qu'il veut me lancer contre Demandred. »
Androl avait crié avec sa vraie voix. Il en fut terrifié, mais personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Quand Taïm relâcha le tissage, la douleur disparut. Androl continua pourtant à se recroqueviller sur le sol, tous ses membres déchirés par le souvenir de la douleur.
« Debout !»
ordonna Taïm. Androl obéit tant bien que mal.
« J'arrive !»
émit Pevara.
« Surtout pas !»
répondit Androl. De sa vie, il ne s'était jamais senti impuissant à ce point. Une fois debout, il tituba et percuta Taïm, car ses jambes refusaient de le porter normalement.
« Imbécile !»
cria Taïm en le repoussant. Mishraïl vint le prendre par le bras.
« Reste tranquille !»
Taïm se lança dans un autre tissage. Androl tenta de suivre les détails, mais il était trop nerveux pour ça. Les flux flottèrent devant lui, puis l'enveloppèrent.
« Que fais-tu »
demanda-t-il à Taïm. Pas besoin de feindre la terreur, il était mort de peur.
« Tu dis avoir vu Androl ?»
fit Taïm.
« Eh bien, Je vais placer sur toi un masque des miroirs, puis j'inverserai les flux. Ainsi, tu ressembleras au petit laquais. Sous ce déguisement, trouve Loghain et tue-le. Avec un couteau ou un tissage, je m'en contrefiche.
Je vais ressembler à Androl?
Oui, parce que c'est un larbin de Loghain, qui n'aura donc aucun soupçon. Nensen, ce que je te demande de faire est incroyablement facile. Pour une fois, pourrais-tu éviter de tout gâcher?
Oui, Emal.
Très bien, parce que si tu échoues, je te tuerai.
Le tissage se mit en place, puis disparut. Mishraïl lâcha Androl, ricana et recula.
Androl est plus laid que ça, Emael.
Taïm eut un rictus, puis fit signe au faux vrai Androl de ficher le camp.
Ce sera suffisant, Mishraïl. Allez, vermine, hors de ma vue. Reviens avec la tête de Loghain, ou ne te remontre plus devant moi.
Androl détala, le regard de tous ses gens pesant lourdement sur sa nuque. Quand il fut assez loin, il contourna un buisson partiellement brûlé, une rareté ces derniers temps, et découvrit que Pevara et Marine et Jonette se cachaient derrière.
« Androl !»
s'écria Emarine.
« Où est ton déguisement? Que t'est-il arrivé? C'était Taïm ?»
Androl s'assit et tenta de réguler les battements de son cœur. Puis il brandit la bourse qu'il avait subtilisée au Mael en le percutant accidentellement.
« C'était lui, oui. Vous n'allez pas le croire, mais... »
Perché sur sa monture, Arganda sortit de sa poche la liste de codes. Puis il s'intéressa au message qu'il venait de recevoir. Les Trollocs continuaient à décocher des volées de flèches. Jusque-là, l'officier avait réussi à les éviter. Même chose pour la reine Aliandre, qui chevauchait toujours avec lui. Par bonheur, elle entendait rester légèrement en arrière, avec les réserves, histoire d'être un peu moins exposée. Après la bataille des ruines, en plus de la Légion du Dragon et des frontaliers, les forces du Géaldan avaient progressé vers l'amont en compagnie de la garde du loup et des capes blanches. Ayant plus de fantassins que les autres forces, Arganda avait traîné en queue de colonne. Ici, ils avaient dû se battre contre les Chariens et les Trollocs qui tentaient de traverser la rivière pour prendre à revers l'armée d'Andor. Arganda ferraillait depuis quelques heures lorsque le message était arrivé à la nuit tombante.
« Fichu écriture »
maugréa-t-il en sondant la liste de codes à la lumière d'une torche. Ses ordres étaient authentiques, sauf si quelqu'un avait craqué le code.
« Alors ?»
demanda Tourne.
« Coton est vivant !»
grogna Arganda.
« Et où est-il ? Je n'en sais rien. »
Arganda plia la lettre et rangea la précieuse liste.
« Selon le messager, Coton lui a ouvert le portail à la figure, lui a jeté la missive, puis lui a ordonné de me trouver. »
Arganda se tourna vers le sud et sonda l'obscurité. Pour passer une meilleure nuit, ces hommes avaient apporté de l'huile via des portails, puis embrasé des piles de brindilles. À la lueur de ces feux, l'officier vit les gardes de rivière qui avançaient vers lui, certainement suite aux ordres qu'ils avaient reçus.
« Je te salue, Tamaltor !»
lança Arganda en levant une main. Son chef, il ne l'avait pas vu depuis la fin de la bataille des ruines, des heures plus tôt. Les gardes de rivière avaient l'air aussi mal en point qu'Arganda lui-même. La journée avait été longue, et les combats semblaient loin de se terminer.
« J'aimerais que Galen soit là, »
pensa Arganda.
« Me disputer avec quelqu'un serait un plaisir. »
Près de la rivière, les Trollocs insistaient toujours. Vers l'aval, mais pas si loin que ça, on entendait les échos de la bataille que livraient les piquiers d'Andor pour contenir les monstres. Désormais, on se battait tout au long de la rivière Mora, presque jusqu'à la colline de Dashar. Avec ses braves, Arganda avait protégé le flanc des Andoriens.
« Quoi de neuf, Arganda ?»
demanda Tam.
« Coton est vivant. Une sacrée surprise. Si on considère que quelqu'un a rasé son poste de commandement, tué pas mal de ses damanes et tenté d'éliminer sa femme. Je ne sais comment, mais Coton s'est sorti de tout ça. »«
Ah !»
s'écria Abel Coton.
« Je reconnais bien mon fiston. »« Il m'a prévenu que vous viendriez, les gars, »
dit Arganda.
« Selon lui, vous avez des flèches. C'est vrai ?»
Tam hocha la tête.
Nos derniers ordres nous ont expédiés à Mayenne par un portail, histoire de guérir les blessés et de nous nourrir un peu. J'ignore comment Matt a pu le savoir, mais un chargement de flèches envoyé par les femmes de Deux-Rivières est arrivé juste avant qu'on reparte. Nous avons aussi des arcs longs pour vous, si ça vous dit.
Volontiers, oui. Coton veut que nous retournions tous en ruine. Après, nous devrons traverser la rivière et rejoindre le plateau du côté nord.
Je ne vois pas à quoi ça rime,
fit Tam.
Mais il sait ce qu'il fait, j'imagine.
Ensemble, les deux groupes se dirigèrent vers l'amont, laissant derrière eux les Andoriens, les Kerieniens et les Aiel.
Que le Créateur vous accueille, les amis,
pensa Arganda. Une fois la rivière traversée, les guerriers prirent la direction du versant nord du plateau. De ce côté, tout était calme au sommet, mais on y voyait briller des rangées de torches.
« S'il y a des chariens là-haut,
dit Tam,
ce sera un sacré morceau à avaler.
Le message de Cotton dit que nous aurons de l'aide.
Quel genre d'aide?
Je n'en sais rien, il n'a pas cru bon d'eux. »
Le tonnerre gronda, et Arganda fit la grimace. La plupart des Ayades devaient se battre de l'autre côté du plateau, mais il pouvait quand même y en avoir ici. Et il détestait l'idée que quelqu'un soit en train de l'observer en se demandant s'il allait le tuer avec du feu, de la terre ou de l'air. Sans les Aes Sedai et les Achaman, les Ayad et compagnie, le monde aurait été un endroit bien plus agréable. Cela dit, le bruit qu'Arganda avait entendu n'était pas celui du tonnerre, ni des explosions. Mais le vacarme produit par les sabots des chevaux qui approchaient, leurs cavaliers tenant une torche, et auraient bientôt traversé la rivière. La grue dorée flottait au milieu des étendards de terre frontalière.
« Que les Trollocs soient maudits, les gars !»
s'écria Arganda.
« Vous venez nous tenir compagnie ?»
À la lueur des torches, l'âne Mandragoran salua avec son épée. Puis il évalua le versant.
« C'est là que nous allons devoir nous battre ?»
Arganda hocha la tête.
« Très bien, » souffla le roi du Malkaire.
« Je viens de recevoir un rapport sur une force charienne très importante, qui se dirige vers le côté nord du plateau, là-haut. Pour prendre à revers les Andoriens qui se battent près de la rivière, bien entendu. » Une fois coincé, notre camp n'aurait plus une chance. À première vue, nous sommes là pour empêcher que ça arrive.
Il se tourna vers Tam.
Tes archers sont prêts à accueillir l'ennemi?
La réception sera chaude, oui.
L'âne acquiesça, puis il leva très haut son épée. Près de lui, un porte-étendard fit de même avec la grue dorée. Comme un seul, les frontaliers chargèrent en direction des chariens qui venaient d'apparaître en haut du versant. Si nombreux qu'on aurait pu croire, à la lueur de leurs torches, que le jour venait de se lever. Tamaltor cria à ses hommes de se préparer.
« Tirez !»
beugla-t-il presque aussitôt après. Plusieurs volées de projectiles s'abattirent sur les chariens, mais la distance entre les deux forces diminua, et l'inévitable riposte tomba sur les défenseurs de la lumière. Arganda se doutait que des archers ne pouvaient pas être aussi précis la nuit que le jour, et il pensait que ce serait vrai pour les deux camps. Mais les gars de deux rivières se révélèrent aussi dévastateurs que d'habitude.
« Cessez le tir !»
ordonna Tam. Juste avant que les cavaliers de l'âne arrivent au contact avec la première ligne de chariens bien amochée.
« Tam !»
songea Arganda.
« D'où tire-t-il son expérience du combat ?»
C'était plus qu'impressionnant. Ce berger avait un instinct plus sûr que bien des généraux aguerris. Les frontaliers ne tardèrent pas à se replier pour laisser les archers recommencer à tirer. Tam fit un signe à Arganda.
« En avant !»
cria l'officier à ses fantassins.
« Toutes les compagnies, chargez !»
La rotation entre archers et cavalerie lourde était efficace, mais elle perdait beaucoup de ses avantages une fois l'ennemi en position défensive. Très bientôt, les chariens auraient érigé une muraille de boucliers et de lances, et leurs archers pourraient s'en donner à cœur joie. C'est là qu'interviendraient les fantassins du Géaldan. Arganda saisit sa masse d'armes, les fichus chariens étaient bardés de fer, et la leva, courant en tête de ses hommes. Le contact eut lieu à mi-chemin du sommet. Sous ses ordres, Tam avait des capes blanches, des fantassins du Géaldan, la garde du loup de Périne et les casquelés de Mayenne. Mais tous ces combattants se voyaient comme une seule et même armée. Moins de 6 mois plus tôt, Arganda aurait juré sur la tombe de son père que des hommes si différents ne combattraient jamais côte à côte, et ne se viendraient en aucun cas en aide, comme l'avait pourtant fait la garde du loup quand les capes blanches étaient en mauvaise posture. Au milieu des chariens, on entendait monter des rugissements de Trollocs. Lumière. Les monstres aussi étaient de la partie? Arganda abattit sa masse d'armes jusqu'à ce que son bras soit en feu. Puis il changea de main, fracassant des os et brisant des crânes jusqu'à ce que le flanc de son cheval soit rouge de sang. Soudain, des éclairs jaillirent du côté opposé du plateau, s'abattant sur les Andoriens qui défendaient leur position au pied du versant ouest. Immergé dans la bataille, Arganda s'en aperçut à peine. Dans un coin de son esprit, il fut quand même accablé. Des mandraides devaient avoir recommencé à attaquer.
« J'ai vaincu ton frère, Loustérine !»
rugit des mandraides, sa voix couvrant le vacarme de la bataille.
« Il agonise! Sa vie s'écoulant de lui !»
Arganda talonna puissant son destrier, le faisant s'écarter alors qu'un Trolloc géant au visage presque humain
poussaient les chariens blessés pour venir se camper face aux assaillants. Du sang jaillissait de la plaie qu'il portait à l'épaule, mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Fondant sur Arganda, il abattit son fléau d'armes à la tête hérissée de piques. Le coup percuta le sol, très près de Puissant, qui en perdit sa placidité coutumière. Alors qu'Arganda luttait pour le calmer, le trolloque géant avança et, de son poing libre, frappa le destrier à la tête. Sonné, le brave animal bascula sur le côté.
« Te fiches-tu du fils de ton propre père ?»
rugit Demandred dans le lointain.
« Cet homme en blanc qui t'appelait mon frère, n'as-tu aucune affection pour lui ?»
Le crâne défoncé, Puissant agonisait, les jambes prises de spasmes. Arganda se releva. Même s'il ne se souvenait pas d'avoir sauté à terre, son instinct lui avait sauvé la vie. Hélas, dans sa chute, il s'était éloigné de ses gardes du corps, qui ferraillaient contre un groupe de chariens. D'un point de vue global, les attaquants avançaient et l'ennemi reculait. Mais Arganda n'eut pas le temps de s'attarder sur les détails. Le trolloque géant ne le lâcherait pas. Masse d'armes levée, l'officier étudia le monstre qui faisait tourner son fléau au-dessus de sa tête tout en enjambant le destrier moribond. Arganda ne s'était jamais senti si petit.
« Lâche !» s'égosilla Demandred. « Tu prétends être le sauveur de ce monde ? Eh bien, ce titre, je le revendique ! Dois-je achever ton misérable frère pour que tu te montres enfin ?»
Arganda prit une grande inspiration, puis il bondit en avant. En toute logique, la dernière manœuvre que le trolloque devait attendre. De fait, le coup qu'il décocha manqua largement sa cible. Arganda, lui, parvint à faire mouche, touchant le bassin du monstre dans un grand craquement d'os. Mais le trolloque frappa de nouveau, une sorte de revers enchaîné sans marquer de temps d'arrêt, et l'officier ne vit et n'entendit soudain plus rien. Enfin, presque. De très loin, il captait des bruits de pas, des rugissements étouffés, des... Un peu plus tard, il n'aurait su dire après combien de temps, il sentit que des mains le soulevaient. Celle du trolloque ? Il voulut ouvrir les yeux, pour au moins, avant de mourir, pouvoir cracher à la face du monstre, et découvrit que l'âne Mandragoran le hissait en croupe.
« Je suis vivant !»
demanda Arganda. Une question idiote, il en était, mais une douleur fulgurante dans son flanc gauche lui donna une idée de la réponse.
« Tu as abattu un sacré géant, Arganda !»
dit le roi du Malkaire, en lançant Mandarbe au galop en direction de leurs lignes arrières. Les autres frontaliers le suivaient.
« Avec ses dernières forces, le trolloque t'a frappé avant de crever. J'ai bien cru que tu étais mort aussi. Mais pour vérifier, il m'a fallu attendre qu'on ait repoussé les types d'en face. Sans l'arrivée des renforts, nous aurions été dans de sales draps. »«
Des renforts ?»
demanda Arganda en se massant un bras.
Du côté nord du plateau, Coton avait posté une petite armée qui attendait d'entrer dans le jeu. À première vue, les fidèles du dragon et un escadron de cavalerie de la compagnie. Pendant que tu t'es tripé avec ce trolloque, ses combattants ont fondu sur le flanc gauche des chariens, qui se sont très vite débandés. Pour se regrouper, il leur faudra pas mal de temps.
« Lumière !»
souffla Arganda. Son bras gauche était cassé, ça ne faisait pas de doute. Mais il avait survécu. Un bon résultat en attendant mieux. Tournant la tête, il regarda l'endroit où ses fantassins tenaient toujours leur position. À cheval, la reine Aliandre les passait en revue, multipliant les félicitations et les encouragements. Pourquoi n'était-elle pas à Mayenne auprès des blessés ? Pour l'instant, ce secteur était relativement sûr. Face à la violence de l'assaut, les chariens s'étaient repliés, laissant une zone déserte entre les deux armées. À coup sûr, ils ne s'étaient pas attendus à une pareille attaque. Minute. Sur la droite d'Arganda, de hautes silhouettes approchaient dans l'obscurité. Encore des trolloques ? Arganda serra les dents pour contrôler la douleur. Sa masse d'armes, il l'avait perdue, mais il lui restait le couteau caché dans une de ses bottes. Pas question de tomber sans... Des ogiers, s'aperçut-il, stupéfié.
Ce ne sont pas des trolloques, mais de bons vieux ogiers.
Des créatures des ténèbres n'auraient pas porté des torches.
Gloire aux bâtisseurs !
Lança l'âne à l'intention des nouveaux venus.
Vous avez participé à l'attaque lancée par Coton sur le flanc des chariens ? Ce Coton, au fait, j'aurais deux mots à lui dire.
Un des ogiers eut un rire tonitruant.
Tu n'es pas le seul, Daishan, mais il bouge aussi vite qu'un écureuil qui cherche des noix au pied des arbres. Un moment par-ci, celui d'après par-là. Bon, je dois te dire que nous sommes chargés de contenir ces chariens, quoi qu'il en coûte.
Du côté opposé du plateau, des éclairs zébraient toujours le ciel. Les Aes Sedai et les Ayad continuaient à s'écharper.
Cotton essayait de coincer les forces des ténèbres. Oubliant la douleur, Arganda tenta de réfléchir. Où en était Demandred? Eh bien, il avait repris ses attaques, qui faisaient des ravages parmi les Andoriens. Tombant par centaines, les piquets ne tenaient presque plus les formations.
D'un côté, les Ayades,
marmonna Arganda,
et de l'autre, un rejeté. Et beaucoup plus de Trollocs que je le pensais. Un océan de monstres.
À présent, il les voyait, au contact avec les forces d'Elaine. À la lueur des explosions, on distinguait des milliers de hautes silhouettes.
Nous avons perdu, pas vrai, Lan?
Sur le visage du mari de Nineveh, pas un muscle ne bougea. Mais il ne contredit pas Arganda.
Que pouvons-nous faire?
Demanda l'officier.
Pour gagner, il faudra écraser ces chariens et sauver les piquiers, avant qu'ils soient encerclés par les Trollocs. Après, chacun de nos hommes devrait tuer au moins 5 de ces créatures. Et je ne parle même pas de Demandred.
Toujours aucune réponse de Lan.
Nous sommes condamnés,
souffla Arganda.
Dans ce cas, nous resterons en hauteur, et nous combattrons jusqu'au dernier. Se rendre, c'est bon quand on est mort. Tomber au combat est un sort enviable.
Alors qu'il les tissait pour créer le monde qu'il avait imaginé, les fils générateurs de virtualité résistaient à Rand. Pourquoi, il n'aurait su le dire. À moins que... Oui, ce qu'il exigeait était peut-être trop improbable. Car créer ainsi un possible n'était pas simplement une affaire d'illusion. Pour réussir, il fallait connaître des mondes passés susceptibles de renaître. Des images miroirs, en somme, de celui où il vivait. Donc, si on cherchait bien, il ne créait rien du tout, mais matérialisait des virtualités. En insistant, les fils acceptèrent de former la réalité qu'il visait. Une dernière fois, l'obscurité se mua en lumière et le néant en matière. Rand se retrouva dans un monde qui n'avait jamais entendu parler du ténébreux. Pour y entrer, il choisit Kemlin, peut-être parce que son adversaire avait utilisé la ville dans sa dernière création. Cette version cauchemardesque de la cité, le jeune homme entendait se prouver qu'elle n'était pas inévitable. Oui, il voulait revoir Kemlin, mais sans souillure. Inspirant à plein poumon, il remonta la voie qui menait au palais. Partout, des arbres chauras prospéraient, leurs branches lestées de fleurs jaunes sortant des jardins et ombrageant les murs d'enceinte des maisons. Par dizaines, des enfants s'amusaient à faire voler au vent les pétales. Dans le ciel lumineux, pas l'ombre d'un nuage. Rand leva les yeux, tendit les bras et émergea de l'ombre des arbres pour se gorger de soleil. Le long de l'allée qui menait au palais, on ne voyait aucun garde, juste un serviteur amical, devant les portes du complexe, qui répondait aux questions des visiteurs. En approchant de l'entrée, Rand laissa un sillage dans le lit de fleurs jaunes. Quand une fillette se campa devant lui, il s'immobilisa et sourit. La petite avança et tendit une main vers l'épée du jeune homme.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda-t-elle, désorientée.
« Une relique, » murmura Rand.
Des rires d'enfant attirant son attention, la gamine s'en fut, toute contente de voir un de ses camarades lancer dans les airs une pleine brassée de fleurs. Rand reprit son chemin.
« C'est ça la perfection pour toi ?»
La voix du ténébreux semblait venir de très loin. Il pouvait accéder à cette réalité pour parler à Rand, mais sans être en mesure d'y apparaître, même très fugacement. Ce lieu était son antithèse. Le monde qui existerait si le dragon le tuait lors de l'ultime bataille.
« Viens donc jeter un coup d'œil !»
Pas de réponse. Si le ténébreux se laissait attirer dans cette réalité, il cesserait d'exister. Car ici, il était bel et bien mort. Toutes les choses passaient et revenaient, le principe même de la roue du temps. À quoi bon vaincre en duel le ténébreux, si c'était pour qu'il renaisse un jour? Rand pouvait faire plus que ça. Créer cet univers, par exemple.
« Je voudrais voir la reine, » dit-il au serviteur. « Elle est ici ?»«
Tu devrais la trouver dans les jardins, jeune homme. »
Le serviteur baissa les yeux sur l'épée de Rand. Pure curiosité. Ici, personne ne pouvait concevoir qu'on veuille faire du mal à quelqu'un. Ça n'arrivait tout simplement pas.
« Merci, » fit Rand en entrant dans le palais.
Les couloirs se révélèrent familiers et pourtant différents. Pendant l'ultime bataille, Kemlin avait été quasiment rasée et le palais avait brûlé. Reconstruite, la ville ressemblait à son modèle passé, mais pas totalement. Rand avança lentement dans les couloirs. Quelque chose l'inquiétait, une sorte d'inconfort dans un coin de son esprit. Que se passait-il? ne te laisse pas absorber et ne sombre pas dans l'autosatisfaction. Ce monde n'était pas réel, enfin, pas complètement, pour l'instant. Était-ce une ruse du ténébreux ? Laisser son adversaire s'inventer un paradis afin qu'il y reste pendant que l'ultime bataille faisait rage ? Parallèlement à leur duel, des gens mouraient. Rand devait garder cette réalité à l'esprit, ne pas se laisser fasciner par une fantaisie. Il eut du mal à s'en souvenir quand il entra dans la galerie, un couloir très large et interminable, régulièrement percé de fenêtres. Sauf que, eh bien, ces ouvertures ne donnaient pas sur Kemlin. Ces espèces de portails permanents permettaient d'observer des mondes très éloignés. Rand passa devant une fenêtre qui offrait une superbe vue sur une baie submergée où des poissons de toutes les couleurs se régalaient de nager. Une autre permettait d'admirer une plaine paisible, très haut dans les montagnes de la brume. Des fleurs rouges dessinaient dans l'herbe insolemment verte des motifs qui évoquaient l'œuvre d'un peintre. Sur le mur d'en face, les fenêtres donnaient un aperçu de toutes les grandes villes. Rand passa devant Théar, où la pierre était devenue le plus grand musée du troisième âge du monde, avec des défenseurs comme conservateurs. Dans cette génération, aucun de ces hommes n'avait un jour manié une arme. Les récits de guerre de leurs grands-parents les stupéfiaient, surtout quand ils songeaient que ces doux vieillards y avaient participé. À travers une autre ouverture, on voyait les sept tours du Malkaire, de nouveau presque indestructibles, mais destinés à être des monuments et plus des défenses. Après la défaite du Ténébreux, la flétrissure avait disparu, et toutes les créatures des ténèbres étaient tombées raides mortes. À croire qu'elles étaient liées à leur grand seigneur, comme une compagnie de trollocs dirigée par un blafard. Ici, les portes n'avaient pas de serrure, et la monnaie n'existait presque plus. Usant de leur puissance, les gens capables de canaliser créaient de la nourriture pour tout le monde. Rand passa devant Tarvalon, où les Aes Sedai guérissaient toutes les personnes qui se présentaient à elles. Prévenantes, elles ouvraient aussi des portails, afin d'aider les gens à retrouver très vite leurs proches. Le bonheur pour tous, sans exception. Le jeune homme hésita à l'approche de la fenêtre suivante, qui donnait sur Widéan. Cette ville prospère avait-elle vraiment été un jour au milieu d'un désert ? L'ancienne tierce terre des Aiel bourgeonnait de Chara jusqu'aux Kériennes. À travers la fenêtre, Rand vit les champs d'arbres Chora qui entouraient désormais la ville. Une forêt de végétaux extraordinaire. Même s'il n'entendait pas les paroles, Rand remarqua que des Aiel chantaient un peu partout dans ce paradis. Plus d'armes, plus de danse avec les lances. De nouveau, ils étaient un peuple pacifique. Le jeune homme continua son tour du monde, dans une galerie. Bandar Eban et Boudar, les terres du Seanchan, Chara. Toutes les nations étaient là, même si les frontières, en ces temps, n'intéressaient plus grand monde. Des reliques, elles aussi. Qui se serait soucié de savoir dans quelle nation il vivait ? Et pourquoi aurait-on voulu posséder de la terre ou un pays ? N'y en avait-il pas assez pour tout le monde ? La renaissance du désert avait permis la construction de nouvelles villes et d'une multitude d'autres merveilles. À présent, la plupart des fenêtres montraient des lieux que Rand ne connaissait pas. N'étaient deux rivières, un territoire redevenu presque aussi majestueux que Manéthéren. Devant la dernière ouverture, Rand marqua un arrêt, car elle donnait sur la vallée où s'étendaient jadis les terres dévastées. Un tumulus s'y dressait, solitaire, à l'endroit où un corps avait été brûlé. Autour, la vie affirmait ses droits à grand renfort d'herbes vertes, de fleurs et d'arbustes. Au milieu des pierres du tombeau, une grosse araignée poilue rampait à toute vitesse. La tombe de Rand, à l'endroit précis où on avait incinéré sa dépouille, après l'ultime bataille. Un long moment, il s'attarda devant cette vue. Puis il se força à repartir, sortit de la galerie et se dirigea vers les jardins. Affable, les serviteurs lui donnèrent toutes les indications qu'il demandait, et aucun ne demanda pourquoi il voulait voir la reine. Quand il la trouverait, supposa-t-il, elle serait entourée de gens. Si tout le monde pouvait la voir, avait-elle le temps de faire autre chose ? Pourtant, quand il l'aperçut, assise sur un banc, à l'ombre des fameux Chora, la souveraine était seule. Dans ce monde, les problèmes n'existaient pas, et les gens guérissaient tout seuls de leurs peines. Un univers où primait le don et non les querelles. Qui avait encore besoin d'une reine ? Elaine se révéla aussi belle que lors de leur dernière rencontre. Bien entendu, elle n'était plus enceinte, car un siècle avait passé depuis l'ultime bataille, et elle n'avait pas pris une ride. En approchant, Rand lorgna le mur dont il était tombé un jour, au pied de la fille héritière. Les nouveaux jardins étaient très différents des anciens, à l'exception du mur, un témoin de la dévastation de Kemlin, puis de la naissance d'un nouvel âge. Elaine leva les yeux, sursauta, et porta une main à sa bouche.
Rande ?
Sa main unique posée sur le pommeau de l'épée de la manne, Rand riva son regard sur la reine. Mais pourquoi adoptait-il une posture si protocolaire ? Elaine sourit.
C'est une farce ! Ma fille, où es-tu ? Tu te sers encore d'un masque de miroir pour te jouer de moi ?
Ce n'est pas une plaisanterie, Elaine, dit Rand. Il se laissa tomber sur un genou afin que leurs têtes soient au même niveau. Puis il sonda le regard de la jeune femme. Quelque chose n'allait pas.
Mais ce n'est pas possible !
S'écria-t-elle. Ce n'était pas Elaine. Le ton, la posture, rien ne collait. Où avait-elle tant changé ? 100 ans, c'était un sacré bail. Elaine, que t'est-il arrivé ?
Arrivé ? Rien du tout. C'est une chaude journée, paisible et somptueuse. J'adore m'asseoir ici pour profiter du soleil.
Rand plissa le front. Ces minauderies, cet accueil insipide. Elaine n'avait jamais été ainsi.
Il faudra donner un banquet,
fit-elle en tapant dans ses mains.
J'inviterai Avienda. Cette semaine, elle ne chante pas. Mais elle doit être de service en nourricerie. En général, elle se porte volontaire.
En nourricerie ?
À Ruidéane. Tout le monde aime jouer avec les enfants, ici comme là-bas. Les gens font des pieds et des mains pour pouvoir s'occuper d'eux. Mais nous acceptons l'idée que ça doit être chacun son tour.
Avienda, s'occuper des enfants et chanter pour les arbres Chora ? Bien entendu, il n'y avait rien de mal là-dedans. Pourquoi n'aurait-elle pas apprécié ses activités ? Certes, mais ça ne collait pas. Avienda, il la voyait comme une mère formidable, mais avide de passer son temps à jouer avec les enfants des autres. Rand sonda de nouveau le regard d'Elaine. Une ombre le voilait, très discrète. Une ombre innocente, mais une ombre quand même. C'était comme ce qu'on voyait dans les yeux d'un converti. Rand bondit sur ses pieds et recula.
« Que fais-tu ici ? »
cria-t-il en levant les yeux au ciel.
« Shaitan, réponds-moi ! »
Elaine inclina la tête, pas le moins du monde effrayée. En ce lieu, la peur n'existait pas.
« Shaitan ? Je jurais que ce nom me dit quelque chose. Mais il y a si longtemps, je perds la mémoire par moments. »«
Shaitan ! »
cria Rand.
« Je n'ai rien fait du tout, adversaire. C'est ta création !»
La voix restait très distante.
« Mensonge ! Tu as changé, Elaine ! Tu les as tous changés !»«
Croyais-tu que m'éliminer de leur vie les laisserait inaltérés ?»
Ces mots explosèrent dans la tête de Rand. Alors qu'Elaine se levait, inquiète pour lui, il recula encore. Oui, il voyait à présent ce qu'il y avait dans ses yeux. Elle n'était pas elle-même parce qu'il lui avait arraché la possibilité de l'être.
« Je convertis des gens, c'est vrai. Quand je me les suis appropriés, ils ne peuvent plus retourner vers la lumière. En quoi est-ce différent de ce que tu as fait, adversaire ? Et si tu agis comme moi, ça veut dire que nous ne faisons qu'un.
« Non ! »
cria Rand, en se tenant la tête à deux mains. Il retomba à genoux.
« Non ! Sans toi, le monde serait parfait !»
« Parfait, immuable, dévasté. Fais ce que tu veux, adversaire. En me tuant, tu garantiras ma victoire. Quoi que tu fasses, ce sera pour mon triomphe. »
Rand cria et se recroquevilla sur lui-même, alors que l'assaut suivant du ténébreux déferlait sur lui. Le cauchemar qu'il avait créé, lui, le défenseur de la lumière, explosa soudain, laissant des rubans scintillants tourbillonner autour de lui comme des volutes de fumée.
« Tu ne peux pas les sauver !»
L'obscurité trembla et gronda comme une bête furieuse. Lumineuse et vibrante, la trame s'enroula de nouveau autour de Rand. La vraie trame, celle où se déroulait la réalité. En générant une virtualité où le ténébreux n'existait pas, Rand avait créé une abomination. Le pire des mondes imaginables. Le ténébreux attaqua de nouveau. Ashan Darey à l'épaule, Matt se retira de la mêlée. Karede avait exigé de se battre, et ce dans la pire situation possible. Eh bien, il était servi. De quoi danser et sauter de joie. Vraiment, il ne pouvait pas se plaindre. Matt s'assit sur un trolloc mort, le seul siège disponible, et but longuement à son outre d'eau. Là, il sentait le pouls de la bataille, chaque pulsation. Et ça n'avait rien d'encourageant. Très intelligent, Demandred n'avait pas mordu à l'hameçon de Matt, près du gué, où il avait posté une assez petite force. Le rejeté y avait envoyé ses Trollocs, mais pas ses Chariens. S'il avait abandonné le plateau pour attaquer les troupes d'Elaine, Maat aurait envoyé ses propres armées à la conquête de l'élévation à partir de l'ouest et du nord-est. Une occasion en or de prendre à revers les ténèbres. À présent, c'était des Mandred qui cherchaient à frapper dans le dos d'Elaine. Pour l'instant, Maat en avait empêché, mais pour combien de temps? Les Aes Sedai s'en tiraient mal, et les Ayad étaient sur le point de gagner.
« Ma chance, » pensa Maat. « Nous allons avoir sacrément besoin de toi aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de m'abandonner. »
Pourtant, mourir parce qu'il avait été lâché par sa chance aurait été une fin logique pour Matrim Coton. Après tout, la trame adorait se payer sa tête. Et là, il commençait à comprendre le principe. Faire de lui un vénard quand ça ne servait à rien, et tout lui reprendre lorsque ça comptait vraiment.
« Par le fichu sang et les maudites cendres !»
pensa-t'il en posant son outre vide à ses pieds. S'il y voyait, c'était grâce à la torche que Karédé brandissait. Sa chance, Maat ne la sentait pas du tout en ce moment. Il en allait ainsi, parfois. Était-elle avec lui ou non? Franchement, il aurait été incapable de le dire. Eh bien, s'il ne pouvait pas offrir aux autres un Matrim Coton vénard, ils auraient au moins droit à un Matrim Coton obstiné. Par exemple, il n'avait aucune envie de mourir aujourd'hui. Il restait trop de gigues à danser, de chansons à chanter et de femmes à embrasser. Enfin, une d'entre elles, en tout cas. Maat se leva et rejoignit les gardes de la mort, les ogiers, les gars de Tam, la compagnie et les frontaliers. Tous les gens qu'il avait mis dans la mouise. Les combats avaient repris, et ses forces s'en tiraient bien, repoussant même les chariens sur quelques centaines de pas. Mais Demandred avait compris son astuce, et commençait à déplacer une partie des Trollocs qui se battaient près de la rivière, afin qu'ils prêtent main forte aux chariens. Ce versant, le plus abrupt, n'était pas facile à gravir, mais le rejeté savait qu'il ne devait pas relâcher sa pression sur Maat. Ces Trollocs étaient dangereux. Sur le front, il y en avait assez pour continuer à combattre Elaine et se frayer un chemin sanglant le long du versant. Si une des deux armées du jeune flambeur cédait, tout serait fini. Bon, Maat avait lancé ses dés et donné ses ordres. Que lui restait-il à faire, à part se battre, saigner et espérer? Une sorte de feu liquide jaillit du côté occidental du plateau. Comme des grêlons, des fragments de roche chauffés au rouge s'abattaient sur les assaillants. Au début, Maat pensa que Demandred avait décidé d'attaquer depuis cette direction. Mais avant tout, il était avide d'écraser les Andoriens. Un nouveau trait de lumière jaillit, visant la position des Aes Sedai. À sa lueur, et malgré la fumée et l'obscurité, Maat fut certain d'avoir vu des chariens traverser le plateau, en venant de l'ouest pour gagner l'est. Le jeune flambeur sourit.
« Regarde !»
dit-il à Karédé, en lui tapant sur l'épaule pour attirer son attention.
« Quoi donc ?»«
Je ne sais pas trop, mais ça affole les chariens. » Donc je suis presque certain que c'est bon pour nous. Continuez à vous battre, les gars !»
Tandis que ses hommes chargeaient, Maat s'éloigna. Ployant sous le poids des flèches attachées à son dos, Olver avançait bravement. Il avait insisté pour qu'on le charge pour de bon. Qu'arriverait-il si un des adversaires inspectait son fardeau et découvrait qu'il y avait surtout du tissu et quelques flèches autour? Sétal et Fail n'avaient pas besoin de le regarder comme s'il allait se casser en deux la seconde suivante. Son sac de flèches n'était pas si lourd que ça. Cela dit, une fois qu'il serait sorti de cette mouise, ça ne l'empêcherait pas d'arracher quelques câlins de consolation à cette halle. Il devait s'entraîner à ces choses-là, sinon il finirait le bec dans l'eau, comme Maat. La colonne à laquelle il appartenait continua son chemin vers le dépôt d'équipement, en plein milieu des terres dévastées. En haletant, Olver dut reconnaître qu'il n'aurait rien eu contre une charge un peu moins lourde. Mais pas parce qu'il fatiguait. Ainsi lesté, comment pourrait-il se battre s'il le fallait? Bien sûr, il devrait laisser tomber son fardeau très vite, mais avec les sangles et un tel poids, ça risquait de ne pas être facile. Ses pieds étaient gris de poussière, pas de chaussures, et des vêtements qui ne feraient même pas des chiffons convenables. Plus tôt, Fail et la compagnie avaient attaqué une minable caravane qui se dirigeait vers le dépôt. Une esquisse de combat, contre trois suppôts et une négociante aux cheveux gras qui escortait une bande de pauvres prisonniers à moitié morts de faim. Une grande partie des équipements portait l'emblème du Candor, à savoir un cheval rouge. De fait, la plupart des prisonniers étaient originaires de ce royaume. Fail leur avait offert la liberté, avec la possibilité de partir vers le sud, mais la moitié seulement s'en était allée. Les autres avaient insisté pour se joindre à leur libérateur afin de participer à l'ultime bataille. Dans les rues, Olver avait vu des mendiants plus en chair que ces malheureux. Mais ils ajoutaient de l'authenticité à la fausse caravane de Fail. C'était très important. Levant les yeux, Olver jeta un coup d'œil à leur objectif, au bout d'un chemin éclairé des deux côtés par des torches. Des voiles rouges regardaient passer la colonne. Craignant qu'il voie la haine briller dans ses yeux, Olver baissa de nouveau la tête. Les Aiel étaient indignes de confiance, il le disait depuis toujours. Deux gardes non-Aiel ordonnèrent à la colonne de s'arrêter. Vêtus de la tenue de la négociante qu'ils avaient tuée, Aravin se porta en avant. Avec son nez, Fail claironnait qu'elle venait du Saldaïa. Une raison, avait-on décidé, pour qu'elle ne joue pas le rôle de la négociante vendue aux ténèbres.
« Où sont vos gardes ?»
demanda un des soldats.
« C'est le convoi de l'IFA, pas vrai? Qu'est-il arrivé ?»«
C'est fou !»
cria Aravin, jouant à merveille l'indignation. Olver eut un petit sourire. Toute la gestuelle d'Aravin avait changé, et elle ne parlait plus de la même façon. Une sacrée comédienne.
« Ils doivent toujours être là où on les a laissés, vu qu'ils sont morts !»« Je leur avais dit de ne pas vadrouiller la nuit. Je ne sais pas ce qui leur a pris, mais on les a trouvés à la lisière du camp, la peau noire et le ventre boursouflé. »
Aravin fit mine d'avoir envie de vomir.
« Je crois qu'une abomination a pendu dans leurs entrailles. Personne n'a voulu voir ce qui grouillait là-dedans. »«
Et tu te nommes ?»
demanda le garde.
« Ponsai, je suis l'associé de l'IFA. »«
Elle en a une ? Première nouvelle ?»«
Disons que je l'ai poignardé, histoire de récupérer sa petite affaire. »
Les rares informations sur l'IFA avaient été collectées auprès des esclaves libérés. Autant dire que ça n'allait pas très loin. Olver sentit de la sueur couler entre ses omoplates. Après avoir étudié Aravin, le garde entreprit de remonter la colonne de porteurs. Dispersés au milieu des anciens prisonniers, les soldats de Fail firent de leur mieux pour adopter la bonne posture.
« Toi !»
dit le soldat en désignant Fail.
« Tu es du soldat Ea, pas vrai ?»
Il ricana.
« Je crois qu'une femme, chez vous, tuerait un type plutôt que de se laisser capturer par lui. »
Méprisant, l'homme posa une main sur l'épaule de Fail, puis la poussa en arrière. Olver retint son souffle.
« Par le sang et les cendres, Dame Fail n'acceptera pas une humiliation pareille. »
Malin, le garde voulait voir si les prisonniers étaient vraiment des loques humaines. La réaction de Fail la trahirait sûrement. Une noble ne pouvait pas... Fail se fit toute petite et gémit quelques mots qu'Olver ne comprit pas. Stupéfié, il en resta bouche bée, mais se força à la refermer. Où une dame comme Fail avait-elle appris à se comporter comme une servante?
« C'est bon, » marmonna le garde. « Allez dans ce coin, et attendez qu'on vienne vous chercher. »
La colonne gagna l'endroit désigné par le soldat. Sur un ordre d'Aravin, tout le monde s'assit par terre. La négociante, elle, resta à l'écart, les bras croisés, tapant du pied parce que attendre l'agaçait. Soudain, le tonnerre gronda. Un frisson glacé courant entre ses omoplates, Olver leva les yeux et les riva sur le visage aveugle d'Amir Dral. Tétanisé, le protégé de Mat eut le sentiment de ne plus pouvoir respirer, comme s'il était tombé dans un lac glacial. Son manteau immobile alors qu'il se déplaçait, le blafard fit le tour du petit groupe. Sans aucune hâte, il acheva son inspection, puis s'enfuit en direction du dépôt.
« Détection du pouvoir !»
souffla Fail à Mandevouin.
« La lumière nous vient en aide !»
murmura le soldat. L'attente devint vite insupportable. Par bonheur, elle cessa assez vite. Sortie du dépôt, une femme grassouillette en robe blanche ouvrit un passage. Aravin brailla à ses esclaves de se lever, puis elle les fit traverser le portail. Marchant près de Fail, Olver passa d'une terre au sol rouge où l'air était froid à un endroit qui semblait être en feu. Très vite, il apparut que c'était un camp de Trollocs, aussi désorganisé qu'on pouvait s'y attendre. Un peu à l'écart, de gros chaudrons bouillonnaient sur une série de feux. Derrière le camp, un versant abrupt conduisait au sommet d'un vaste plateau. De la fumée en montait, et quelque part sur la gauche d'Olver, on captait les échos d'un combat. Se détournant de la pente, le gamin vit dans le lointain la silhouette d'une haute et étroite montagne. On eût dit une chandelle posée au milieu d'une table. Regardant de nouveau le versant, Olver sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Un homme venait de tomber du haut de l'élévation, un étendard toujours serré entre ses mains. Dessus s'affichait une grande main rouge. La compagnie. L'homme et son étendard s'écrasèrent au milieu d'un groupe de Trollocs assis autour d'un feu pour dévorer des morceaux de viande grillée. Des étincelles jaillirent un peu partout. Rageurs, les monstres retirèrent l'intrus de leur feu. Heureusement pour lui, il n'était plus en mesure de souffrir de ce qu'on lui faisait.
« Fail !»
murmura Olver.
« J'ai vu, oui. »
Dans son fardeau, l'épouse de Perrine avait dissimulé le corps.
« Lumière, comment allons-nous retrouver Mat ?»
Le reste de la colonne émergea du portail. Dans le lot, des hommes portaient à l'origine une épée, mais on avait réuni les armes pour faire croire qu'elles seraient distribuées aux combattants. Quelques types charriaient ses sacs-là sur le dos, comme Olver avec ses flèches.
par le sang et les cendres !»
lâcha à voix basse Mandevouin, en approchant du gamin et de Fail. Dans un enclos, près de là, des prisonniers gémissaient.
« Ils vont peut-être nous enfermer aussi, mais on pourra filer en profitant de l'obscurité. »
Fail secoua la tête.
« Ils nous prendront nos sacs, nous laissant sans armes. »«
Alors, que faire ?»
demanda Mandevouin. Du coin de l'œil, il suivit le passage d'un groupe de trollocs qui revenaient du front en tirant avec eux des cadavres.
« Nous battre ? Espérer que le seigneur Matt nous repérera et nous enverra du secours ?»
Oliver n'appréciait pas beaucoup ce plan. Il brûlait d'envie de se battre, mais ces trollocs étaient vraiment très grands. L'un d'eux passa près de la colonne et tourna sa tête de loup pour mieux l'étudier. Des yeux qui auraient pu appartenir à un être humain s'attardèrent sur Oliver, comme si leur propriétaire le trouvait digne de figurer sur son menu. Le gamin recula et glissa une main dans son fardeau, où il avait caché son coutelas.
« On s'éparpillera !»
souffla Fail, quand les monstres furent passés.
« Fuite dans toutes les directions, avec l'idée de les désorienter. Certains d'entre nous s'en sortiront peut-être. »
À cet instant, Aravine jaillit du portail. La femme en blanc qui l'avait ouvert déboula derrière elle. Sans perdre de temps, Aravine braqua un index sur Fail. L'épouse de Perrine décolla du sol. Alors qu'Olver poussait un petit cri, Mandevouin jura, jeta son fardeau et tenta de récupérer sa lame. Arella et Selande crièrent, mais comme le militaire, elles furent soulevées du sol par des flux d'air. Armes au poing, des voiles rouges sortirent à leur tour du passage. L'enfer se déchaîna. Essayant de se défendre avec leurs poings, plusieurs soldats de Fail succombèrent. Oliver se jeta à terre en quête de son coutelas, mais quand ses doigts se refermèrent sur le manche, l'escarmouche était terminée, tous ses compagnons lévitant dans les airs.
« C'était si rapide !»
Pourquoi ne lui avait-on pas dit que tout se passait très vite au combat? Tout le monde semblait avoir oublié son existence, mais que pouvait-il faire? Aravine approcha de Fail. « Que se passait-il? Avait-elle trahi la lumière ?»«
Je suis désolée, madame, »
souffla-t-elle. Oliver entendit à peine. Décidément, personne ne faisait attention à lui. Les voiles rouges surveillaient les soldats, regroupés pour être plus faciles à contrôler. Un bon nombre d'entre eux gisaient sur le sol, se vidant de leur sang. Dans ces liens d'air, Fail se débattait, rouge de fureur. À l'évidence, on l'avait aussi bâillonné. Sinon, dans des circonstances pareilles, on l'aurait entendu. Aravine s'empara du fardeau de Fail, l'ouvrit, regarda dedans et écarquilla les yeux. Puis elle referma le sac.
« J'avais espéré laisser mon ancienne vie derrière moi, »
murmura-t-elle à Fail.
« Recommencer de zéro. Je croyais pouvoir me cacher, ou peut-être qu'on m'oublierait. Enfin, je pensais être en mesure de revenir vers la lumière. Mais le grand seigneur n'oublie rien, et nul ne peut se cacher de lui. Ils m'ont retrouvé la nuit de notre arrivée à Andorre. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais je n'ai pas le choix. »
Aravine se détourna de Fail.
« Un cheval !»
cria-t-elle.
« Je vais remettre ce sac au seigneur Demandred, en main propre, comme on me l'a ordonné !»
La femme en blanc vint rejoindre la traîtresse, et elles se disputèrent à voix basse. Oliver regarda autour de lui. Personne n'avait conscience de sa présence. Ses mains se mirent à trembler. Depuis très longtemps, il savait que les trollocs étaient des géants hideux. Mais c'étaient des monstres de cauchemar. Aujourd'hui, il les voyait en chair et en os. S'il avait été là, qu'aurait fait Matt ?
« Tovia Andis et Tovia Sagain !»
murmura le gamin en dégainant son couteau. Avec un rugissement, il se jeta sur la femme en blanc et lui enfonça sa lame dans le bas du dos. Elle hurla de douleur et relâcha ses tissages. Aussitôt, Fail atterrit sur le sol, libre de ses mouvements. Soudain, l'enclos des prisonniers s'ouvrit et des hommes furieux en sortirent, titubant vers la liberté.
« Plus haute la digue !»
cria Doessin.
« Et tout de suite !»
Léane obéit, tissant de la terre avec les autres sœurs. Devant elle, le sol trembla, puis se souleva comme un tapis qu'on pousse des deux côtés. Les tissages achevés, les Aes Sedai se réfugièrent derrière la digue. Doessin dirigeait le petit groupe composé d'une dizaine de sœurs, de quelques champions et d'une poignée de soldats. Ceux-ci brandissaient leurs armes, mais ces dernières heures, elles s'étaient révélées aussi utiles que des miches de pain. Dans l'air, le pouvoir crépitait furieusement. La digue improvisée trembla, tandis que les Aïades la bombardaient d'éclairs. Unie à la source, Léane jeta un coup d'œil par-dessus la digue. À peu près remise de sa rencontre avec Demandred, elle en gardait un souvenir terrifié. Totalement à la merci du rejeté, elle aurait pu mourir, comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. Elle avait aussi été effarée par les délires du rejeté. Sa haine du dragon réincarné dépassait les pires folies dont elle avait pu être témoin. Des aïades descendaient la pente, leur tissage concentré sur la malheureuse digue. Avec la précision d'un chirurgien qui élimine de la chair malade, Léane coupa un des flux en plein vol. Un seul. Désormais, elle était bien plus faible dans le pouvoir qu'avant. Elle devait compenser par une efficacité supérieure. Ce qu'on pouvait réussir avec peu de moyens était vraiment étonnant. Soudain, la digue explosa. Sous une pluie de terre, Léane se jeta sur le côté. Sans lâcher le saïdar, elle roula sur elle-même dans la fumée. Fichu aïade mal. Leur tissage, elle ne pouvait pas les voir. Se relevant, elle constata que sa robe était souillée et ses bras couverts d'écorchures. Apercevant une silhouette bleue dans un trou pas trop éloigné, elle fit la rejoindre d'Oessin. Mais elle ne trouva que son cadavre, et sans la tête. Aussitôt, un chagrin presque incontrôlable la submergea. De Doessin, elle n'avait jamais été très proche, mais ici, elles s'étaient battues ensemble et ça tissait des liens. Le deuil, l'angoisse, les frayeurs toujours renouvelées. Combien de malheurs pouvait-on encaisser? Et combien de défunts Léane devrait-elle encore pleurer? Non sans peine, elle se ressaisit. Cette bataille était un désastre. La Tour Blanche s'attendait à affronter des seigneurs de la terreur, mais pas des centaines et des centaines d'aïades. Quasiment une nation entière de gens capables de canaliser et formés à la guerre. Sur le champ de bataille, les cadavres des sœurs évoquaient des taches de couleur. Rendus fous par la mort de leur Aes Sedai, des champions chargeaient en direction du sommet et étaient taillés en pièces par les éclairs et les boules de feu. Sur des jambes mal assurées, Léane se dirigea vers un groupe de sœurs rouges et vertes qui continuaient le combat dans une tranchée creusée par les explosions. Pour l'instant, la configuration du terrain les protégeait. Mais combien de temps tiendrait-elle? Malgré le désastre, pourtant, Léane était pleine de fierté. En infériorité numérique, souvent submergée, les Aes Sedai n'abandonnaient pas le combat. Rien à voir avec l'attaque des Séanchaniens sur la Tour Blanche, où les sœurs divisées étaient passées près du désastre. Aujourd'hui, ces femmes faisaient corps. Chaque fois qu'un groupe était dispersé, elles en reformaient un autre et reprenaient la lutte. Bien sûr, des éclairs et des boules de feu s'abattaient sur elles, mais l'ennemi en recevait au moins autant en retour. Léane approcha prudemment de la tranchée. En avançant, elle arriva aux côtés de Raichin Konoral, qui se cachait derrière un rocher pour mieux bombarder les aïades de tissage. Léane se prépara à la riposte et parvint à dévier une boule de feu avec un tissage d'eau qui la fit se désintégrer en plein ciel. Raichin eut un hochement de tête approbateur.
« Moi qui te croyais bonne à rien désormais, à part faire les yeux doux aux hommes. Raichin, le génie des Domani, c'est d'obtenir ce qu'elles veulent, avec le moins d'efforts possible. »
Raichin ricana, puis propulsa quelques boules de feu sur les aïades.
À ce sujet, il faudra que je te demande conseil un de ces jours. S'il y a vraiment un moyen de faire obéir les hommes, j'aimerais beaucoup le connaître.
L'idée était tellement absurde que Léane faillit éclater de rire malgré les circonstances tragiques. Une sœur rouge se maquillant et usant des techniques de manipulation des Domani?
Au fond, pourquoi pas?
Pensa Léane, en neutralisant une autre boule de feu. Le monde changeait et les Ajas, même très lentement, évoluaient avec lui. La résistance de ce duo de sœurs finit par attirer l'attention des aïades.
Il faut changer de position,
dit Raichin. Léane acquiesça.
C'est Charien,
grogna la sœur rouge.
Regarde-moi ça!
Léane en sursauta de surprise. La plus grande partie des soldats ennemis s'était retirée dès le début du combat. Quelque chose semblait les avoir attirés ailleurs. Mais les aïades les avaient remplacés par une foule de pauvres gens terrorisés qui leur servaient de boucliers humains. Beaucoup brandissaient des bâtons ou des outils, comme s'ils entendaient se battre, mais ils semblaient n'en avoir aucune envie.
Par le fichu sang et les maudites cendres!
Grommela Raichin. Léane arqua un sourcil à l'intention de sa compagne, qui continua à envoyer des éclairs en prenant soin de passer au-dessus des boucliers humains. Malgré tout, beaucoup d'innocents furent touchés. Révulsée, Léane se joignit quand même à l'attaque. En rampant, Manda Wan rejoignit les deux sœurs. Ses vêtements roussis, les joues noires, la Aes Sedai verte ressemblait à une souillon.
Pas plus que moi, sans doute,
pensa Léane, en baissant les yeux sur ses bras.
On se replie,
annonça Manda.
On va peut-être devoir recourir à des portails.
Pour aller où?
Demanda Léane.
Nous planquer à l'arrière?
Un lourd silence suivit cette question. Non, il était impossible de se désengager de ce combat. En ce jour, la devise c'était « vaincre ou périr ».
« Nous sommes trop dispersés »,
dit Manda.
« Se replier, c'est avoir une chance de se regrouper. En tout cas, c'est la seule idée que j'ai. Mais si tu peux proposer mieux ?»
Manda s'adressait à Raichin. Désormais, Léane était trop faible dans le pouvoir pour qu'on lui demande son avis. Pendant que ses collègues conversaient, elle recommença à couper des tissages en plein vol. Non loin de là, les Aes Sedai sortirent de leur tranchée et entreprirent de descendre la pente. Elles comptaient sûrement se regrouper, voyager jusqu'à la colline de Dashar et décider de la suite du programme. Minute, que se passait-il? Près d'ici, quelqu'un canalisait le pouvoir avec une puissance énorme. Les Ayad avaient-ils formé un cercle? Plissant les yeux pour mieux voir dans l'obscurité, Léane dut tisser de l'air pour chasser la fumée qui voilait tout. Mais cet obstacle disparut tout seul, comme si des bourrasques l'avaient dissipé. Egwen Alvéré passa entre les sœurs, gravissant la pente au pas de course. Autour d'elle, l'aura du Saïdar était 10 fois plus forte que tout ce que Léane avait vu dans sa vie. Les bras tendus, une baguette blanche au poing, la chair d'Amirline chargeait et ses yeux semblaient briller. Dans une explosion de puissance et de lumière, elle propulsa une bonne dizaine de lances de feu. Une dizaine! Balayant le versant devant elle, ce raz de marée mortelle déchiqueta les Ayades par dizaines.
« Manda !» souffla Léane. « Je crois que nous venons de trouver un meilleur point de ralliement. »